Bonjour et bienvenue dans les Agités du Fleu numéro 11. Les Agités du Fleu, c'est le podcast d'Agito qui agite ta classe. Pour ce numéro, on a tout d'abord avec moi Seb. Ça va Seb ?
Eh oui, ça va bien. En vacances.
Ah, en vacances déjà, tu as de la chance. Eh bien alors, je te mets à contribution. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour ce numéro, Seb ?
Oui, ben on va continuer notre série sur de numéros consacrés à la prononciation. Et pour l'occasion, on re-reçoit Michel Billière. Bonjour Michel.
Bonjour Seb. Bonjour Fred.
Alors Michel, si vous vous souvenez, il est professeur au département de sciences du langage, ancien responsable du master de sciences du langage, spécialité acquisition didactique du français langue étrangère et seconde, la DFLES, à l'université de Toulouse 2, et blogueur actif sur Au son du fleu, avec une bonne flopée de publications ces derniers temps. Et puis bah, aujourd'hui, avec Michel, on va vraiment faire des études de cas avec de vrais enregistrements, de vrais apprenants. Et puis, bah, je vous propose de se mettre tout de suite au boulot.
Et oui, donc merci Seb. À la place du traditionnel dossier aujourd'hui, on va tout d'abord commencer par écouter des apprenants, les diagnostiquer et proposer une ébauche de plan de remédiation pour la prononciation. Et on commence tout de suite avec notre premier apprenant enregistré par Emmanuel, qui nous avait parlé de son petit apprenant qui avait quelques soucis lors du premier épisode, donc ça remonte un petit peu, mais on l'a pas oublié. On écoute donc tout d'abord l'apprenant d'Emmanuel qui a 7 ans.
Je mangeais du poisson à la confite de la jumeau. J'ai bu du chocolat chaud le matin. On a mangé des céréales et on a bu du chocolat chaud et du lait. J'étais au sommet du ballon d'Alsace. J'ai vu la jumeau. On a fait l'anniversaire de ce van.
Voilà, donc je crois, Michel, que c'est un exercice qui a été fait, un enregistrement qui a été fait sur une lecture, hein, pas une production spontanée, là.
Ce qui s'entend, d'ailleurs. Et puis l'enfant, visiblement, ouais, a quelques petits problèmes au niveau de la lecture. Ce que l'on entend de façon évidente, c'est que ce petit garçon n'est pas capable de prononcer le « che », qu'il remplace par « ce ». Alors, tu as donné une information importante, c'est un enfant qui a 7 ans. Donc, étant donné qu'il a 7 ans, je pense qu'il est nécessaire de l'amener voir un orthophoniste, parce qu'à cet âge-là, la confusion « ce »« che » n'est pas normale. Alors que, dans le développement langagier d'un enfant, il est normal, quand il a aux alentours de 4 ans, de faire la confusion entre « ce » et « che », c'est ce qu'on a appelle l'effet fiche, on prend le mot anglais. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un certain moment, l'enfant, le petit francophone, entend la différence entre ce et che, mais n'arrive pas à articuler l'un des deux sons. C'est-à-dire, on lui demande « qu'est-ce que tu veux ? Tu veux du chocolat ?» L'enfant va répondre « oui ». Et si on lui demande « alors, tu veux du chocolat ?»« Mais non, je veux du chocolat, pas du chocolat ». Donc, ça veut dire que l'enfant entend l'opposition « ce che », mais n'arrive pas à opposer les deux réalisations pour le moment. Par contre, à un moment, ça va se stabiliser. Étant donné qu'on peut considérer que, dans le courant de la cinquième année, l'enfant a intégré tout le système de sons, de combinaisons sonores de sa langue maternelle. Par contre, si ce genre de problème perdure après l'âge de 5 ans, là, il est impératif de consulter un orthophoniste. En tout cas, ça ne relève plus de la phonétique corrective, c'est évident.
D'accord. Et par exemple, si c'est avec un autre son, tu sais, il y a ce son qui n'existe pas en français, mais qui est un peu le chuchotement. Si on fait les che comme ça, ça, c'est pareil, ça peut se régler si c'est avant 5 ans tout seul ou il faut consulter plus tôt.
Là, je ne saurais te répondre précisément, parce que cela signifie que l'enfant habite une aire linguistique précise où ce son est réalisé. Par contre, s'il effectivement il est élevé dans un contexte francophone et qu'il a cette espèce de façon de parler comme un chat, si j'essaie d'imiter ce que tu viens de faire, il est évident que là, quand même, il faut consulter un orthophoniste, de manière à ce que celui-ci lui permette une articulation, si j'ose dire, à la française.
D'accord. Bah écoute, merci. Bah, on transmettra, j'espère qu'Emmanuel écoutera ça. Donc elle n'a rien à faire, si ce n'est conseiller un orthophoniste. Malheureusement, hein, dans son mail, elle me disait que c'était assez difficile d'obtenir des rendez-vous avec les orthophonistes, là où elle se trouvait. Mais bon, On va essayer ça. On va continuer avec un autre apprenant qui était un des miens. Alors, je vais brouiller son prénom pour lui laisser l'anonymat. Mais on écoute ça tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Benjamin et je travaille au secrétariat des Nations Unies au département des affaires politiques à la division de l'Afrique 1. Je suis assistant administratif. Je réserve les salles de conférence pour mon équipe qui rencontre une fois par semaine. Pendant ces réunions, je fais la téléconférence avec nos collègues à Addis et Gaborone. Je réponds à beaucoup de courriels.
Voilà, hein, bon, je ne la mets pas complètement. Je pense que là, on a un bel aperçu. Alors, quelle nationalité?
Bon, mais ça, c'est un anglophone, c'est évident. Et je suis tenté de dire qu'il est américain.
Oui, exactement. Ouais. Mm-hmm. Et qui, en plus, est très investi dans la production de médias. Donc, ouais. Ce qui est pas mal avec lui, c'est qu'il a une certaine aisance à prendre la parole, comme on peut le voir. Mais effectivement, de sérieux progrès à faire en termes de prononciation du français. Hein.
Oui. Et il est évident qu'il a des problèmes à un double niveau, au niveau segmental, c'est-à-dire qu'il réalise mal certains sons, on va y revenir, et au niveau suprasegmental, il a peut-être un rythme et une intonation qui ne sont pas typiquement français. Alors, je pense que c'est un monsieur qui est en train de parler devant un micro, donc il fait une sorte de monologue, je suppose. Donc là aussi, ça se perçoit en quelque sorte, mais il a peut-être tendance à avoir des intonations très montante ou une certaine façon de, si j'ose dire, de chanter qui n'est pas véritablement à la française. Donc peut-être que dans un premier temps, il faudrait davantage l'habituer à travailler sur des groupements sonores plus brefs, ce qui nous permettra de mieux gérer ce qu'il est en train de produire. Quand je parle de mouvements sonores brefs, je pense notamment à de petits groupes rythmiques de 3 à 4 syllabes, ou alors à ce que François Violant appelle des mots phonétiques, c'est-à-dire des unités de perception et de production minimales en français, mais qui peuvent très bien être gérées par l'apprenant comme par l'enseignant, parce qu'on travaille sur très peu d'unités, 3 ou 4 syllabes. Et quand on essaie de faire répéter des choses de 3 ou 4 syllabes, par exemple, je m'appelle Jonathan, ou bien je m'appelle Jonathan, je crois que c'est son prénom, je l'ai plus en tête.
Benjamin.
Pardon ?
C'était Benjamin.
Ah, Benjamin. Donc, si on travaille donc sur des regroupements sonores qui sont relativement brefs, tant pour le prof que pour l'élève, on va habituer progressivement, graduellement l'apprenant à éviter de faire ces espèces de montées, ces espèces de chantonnements typiquement britanniques et à le ramener vers des intonations finalement plus plates qui sont davantage des intonations francophones.
Donc, en fait, là, Michel, si je suis bien, tu conseilles d'abord de travailler l'intonation avant le rythme, c'est ça ?
Intonation et rythme, c'est lié en quelque sorte. L'un ne va pas sans l'autre. Mais quand je dis qu'il faut travailler sur de petits groupements prosodiques du genre « je m'appelle Benjamin », je suis américain, etc., etc. Finalement, je fais des découpages toutes les 3-4 syllabes, et ça, c'est déjà un effet de rythme. Dès qu'on est sur des découpages, dès qu'on est sur des pauses, le fait de faire ces découpages fait que l'accent obligatoire du français est sur la dernière syllabe prononcée, etc. Donc là, on est vraiment sur... on est vraiment sur des effets de rythme. Et la musique, la mélodie, vient en quelque sorte s'adapter au, vient se superposer au rythme. C'est le rythme qui hiérarchiquement est à la base de tout. La mélodie, ben, toute chose égale par ailleurs, elle est dépendante du rythme, ici du nombre de syllabes, de la vitesse de parole, de l'endroit où l'on fait la pause, etc., etc. Et le grand secret, c'est de travailler sur des ensembles qui sont des ensembles toujours réponses très brefs. Au fur et à mesure que l'élève devient plus sûr de lui, accroît son expertise en français, on peut bien sûr proposer des groupements plus longs, les enchaîner, etc., etc. Mais dans un premier temps, on y va tout doucement.
D'accord. Et c'est un peu ce que on avait reçu Michel Frelan-Ricard aussi. Elle nous parlait, elle, de groupe de souffle. C'est un peu ça.
Alors, oui, alors un groupe de souffle, c'est ce qui se passe à chaque fois que je reprends ma respiration. Ce que je fais là, vous allez m'entendre. Oh, voilà, là je produis un groupe de souffle, beau lapsus, diabolique et même le lapsus. Donc je produis un groupe de souffle, je suis en train de parler, et dans un groupe de souffle, il y a plusieurs groupes rythmiques, plusieurs groupes prosodiques, plusieurs mots phonétiques comme tu veux, jusqu'à ce que... Voilà, j'ai repris ma respiration et tout ce qu'il y a entre ces deux prises de respiration, ben ça s'appelle un groupe de souffle, lequel peut contenir plusieurs groupements, appelés parfois différemment selon les phonéticiens.
D'accord. Et donc là, le but, hein, de l'objectif qu'on aura avec cet apprenant, c'est de lui apprendre à baisser cette intonation et à pas aller dans les aigus comme ça en fin de groupe, en fait.
Tout à fait, et ceci peut se faire donc en travaillant sur des ensembles brefs, 3 à 4 syllabes, et bien sûr également associé à la baisse de la voix, donc à la baisse du ton, associé naturellement le geste qui va avec, parce que la prise d'information est également visuelle. En même temps, si vous produisez une phrase, comme ce que je fais là, actuellement, pendant que je parle, en baissant la tête ou bien en faisant un geste de la main vers le bas, par mimétisme, l'apprenant va reprendre ce geste et là, il est pratiquement impossible d'avoir la voix qui monte. D'accord ? Donc, c'est vrai que l'accompagnement visuel est indispensable de la production vocale proprement dite.
Oui, donc en fait, en poussant l'apprenant à utiliser donc des groupes rythmiques beaucoup plus courts, tu es en train de nous dire que naturellement, si en plus on rajoute des gestes, on va avoir une correction qui va s'opérer petit à petit au niveau de la tonalité.
Oui, bien sûr, dans la mesure où le geste, ne pas oublier que le geste accompagne naturellement et spontanément la parole. Quand je parle, je fais des gestes, d'accord. Et là, il y a cette idée, ces gestes para-verbaux, c'est-à-dire qui sont synchronisés finalement avec la prise de parole, ben, il suffit de faire des gestes facilitateurs. Quand je monte la voix, je peux avoir par exemple la tête qui monte, ou le bras qui monte, et quand j'ai la voix qui descend, comme ce que je fais actuellement, je peux avoir la tête qui se penche, le tronc qui se penche en avant, etc. Et à partir de là, ben, disons que pour l'apprenant, c'est une prise d'information qui est non seulement auditive, mais qui est doublée par une prise d'information visuelle et même kinesthésique. Donc l'idée de base, c'est que 1. La parole accompagne nécessairement le mouvement, le geste est également calqué sur la prosodie, c'est ce qu'on appelle des gestes, par exemple, co-verbaux, qui suivent le rythme, l'intonation, enfin, qui servent à rythmer le discours, à scander le discours. Et si on utilise toutes ces possibilités qui sont tout à fait naturellement offertes par le langage, bon, ben là, on décuple en quelque sorte le pouvoir de l'enseignant. Encore faut-il que l'enseignant s'en rende compte. Ne jamais oublier que la prise d'information est toujours multicanal. Il y a l'oreille, bien sûr, mais il y a également la vue et il y a également donc les sensations corporelles, les sensations kinesthésiques. Et tout ceci est au service de la correction phonétique, ici, de la bonne direction du mouvement intonatif.
Oui, puis en plus, ça, du coup, ça limite énormément toutes les explications techniques qu'on pourrait voir de manière traditionnelle dans certains exercices de phonétique ou dans des manuels.
Ah, tout à fait d'accord. Encore une fois, on travaille sur une propriété naturelle de la parole.
Naturelle, ouais, ok.
Et donc, à part quand j'écoute sa production comme ça, à part le faire travailler sur le rythme, l'intonation, je touche à rien d'autre.
Il est évident qu'il a une production de son qui révèle immédiatement son appartenance anglophone et donc américaine. Il y a deux sortes de grandes erreurs qu'il produit. D'une part, des consonnes qui sont produites avec une trop grande explosion, notamment le T, par exemple. À un moment, il y a tout qui est prononcé T, pas également, donc il y a véritablement une une trop grande tension. Pour moi, je dirais qu'il prononce certaines consonnes, les dentales et les labiales, avec un excès de tension. Et il a également des diphtongues qu'il prononce. Par exemple, j'ai relevé qu'à un moment, il a dit « bokeh », il a dit « après », je crois, et « modifiez ». Donc, il y a également des diphtongues. Alors, par contre, une voyelle diphtonguée en français est toujours moins tendue qu'une voyelle française qui, elle, est prononcée sans aucune variation de timbre. Donc ça, ce sont deux erreurs absolument typiques qu'il réalise. Il y a également le « u » qu'il n'a pas. Il dit à deux reprises « puis » au lieu de « puis ». Alors là aussi, est-ce que je dois corriger dans certaines régions de France ou en Belgique, le son « u » de « puis » n'existe pas. Il est remplacé par « puis ». Alors là, ça va être une bagarre régionale, ça va être une bagarre de puristes. Mais là, on est vraiment soumis à un cas de variation. J'aurais envie de dire que c'est pas ce qu'il y a de plus important. Par contre, travailler sur ces voyelles prononcées diphtonguées, ainsi que travailler sur certaines consonnes, les occlusives notamment, qu'il prononce avec une tension excessive, ça me paraît fondamental. Et ce n'est pas un travail si difficile qu'on peut le croire.
Ouais, c'est ce que tu nous avais déjà dit un petit peu sur avec les intonations montantes pour tendre un peu les voyelles, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Tu vois, j'ai retenu mon
tour, hein. Si tu veux, très rapidement. Bon, mais comment je peux faire? Je prends par exemple que j'ai noté de après. Oui, bien sûr, il y a le re qui est prononcé totalement à l'anglaise. Ça, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais par exemple, si je prends le mot après, je ne sais plus ce qu'il a dit. Je sais pas, moi, je fais quelque chose après. Bon, donc, il prononce une voyelle diphtonguée. Alors, c'est quoi une voyelle diphtonguée? C'est une voyelle qui change de timbre en cours d'émission. Pour un Français, on pourrait penser que ce sont deux sons successifs. Par contre, attention, pour un anglophone, c'est un seul phonème. C'est-à-dire, c'est un phonème qui est réalisé avec une articulation complexe. Les organes articulateurs, la langue est tellement détendue qu'elle bouge dans la bouche pendant l'émission de la voyelle. Et ça, c'est une chose qui n'existe jamais en français, parce que les voyelles françaises sont toutes des monophtongues, c'est-à-dire elles sont produites avec donc une tension qui fait que la voyelle est tenue pendant toute son émission, je dis bien A, E, I, O, U, et non pas I, oi, ao, etc., comme pourrait faire un anglophone. Donc cela signifie que l'anglophone produit des voyelles pas assez tendues. Alors comme tu disais, pour mettre de la tension au niveau des voyelles, qu'est-ce que je peux faire? Ben, en tant que bon verbotonaliste, je vais naturellement utiliser la prosodie prioritairement, ainsi que le geste, d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais proposer comme exemple quelque chose comme, par exemple, « tu viens après », avec une intonation, vous l'avez entendu, qui est très une intonation montante, et donc tu viens après, et en même temps vous ne me voyez pas, mais je serre les poings, je relève la tête, donc je mets de la tension au niveau du corps. Si je fais cette tension au niveau corporel, cette tension musculaire va forcément se refléter là où les sons sont articulés, ce que dans le jargon des verbotonalistes on appelle la micromotricité. Donc si jamais mon corps est tendu, les organes phonatoires vont également avoir une tension supplémentaire. Donc j'utilise une gestuelle très tendue, la tête qui se relève, sur la syllabe considérée bien sûr, les poings qui vont vers le haut, personnellement c'est ce que je fais, je peux redresser mon buste également, je me mets donc dans l'installation montante, tu viens après, et en même temps vous entendez que je prononce la phrase rapidement, c'est-à-dire que j'accélère le rythme, puisque la vitesse de parole c'est du rythme, et le fait d'accélérer le rythme, c'est je mets de la tension, c'est-à-dire que les sons se bousculent au portillon, ils veulent tous être produits. À partir de là, avec un rythme rapide, je mets de la tension. Alors que si j'avais proposé un truc tel que « tu viens après », avec un rythme ralenti, vous sentez bien que la tension en question n'est pas là. Donc j'utilise deux procédés d'un point de vue prosodique, l'intonation très montante, le rythme rapide. J'ai envie de vous dire également que je suis en syllabe accentuée, puisque c'est la dernière syllabe à prononcer. Donc, une syllabe accentuée, ça constitue également une proéminence rythmique. Donc, vous voyez que je cumule trois procédés.
Et ça devrait corriger, quoi.
Non, mais là, vous voyez que je joue sur la prosodie. Simplement, je crois que ce qui est important, c'est que quand je vous fais ça, je vous fais un peu, je suis un peu le Dr House de la phonétique, je vous fais l'autopsie de ce que je fais. C'est-à-dire que, finalement, je ne fais rien qui ne soit pas explicable, qui ne soit pas motivé. Je cherche pas, c'est pas de l'instinct, c'est tout peut être complètement expliqué par ce travail phonétique. Voilà, ça, je crois que c'est important d'avoir également cette vision de la phonétique. Il y a même une technicité certaine du prof, mais cette technicité, c'est la pratique qui permet de l'acquérir. Il va de soi que je n'explique jamais aux apprenants ce que je fais. Par contre, il y a une confiance suffisante entre les apprenants et le prof qui font que les apprenants suivent très volontiers le prof quand il fait des choses. Je peux vous montrer l'étendue de mon vice, je peux même vous dire qu'à un certain moment, je peux employer certaines consonnes qui me servent à raccourcir la durée de la voyelle émise. À savoir que mon anglophone me dit, par exemple, je viens à pray. Très bien. Ben, je vais utiliser trois consonnes. Les consonnes peut que je mets après la voyelle considérée. Donc, je lui ai demandé de répéter après, après, après. Et normalement, l'anglophone ne pourra pas, ne diphtonguera pas, parce que les trois consonnes peut que empêchent la voyelle de se répandre dans l'espace syllabique, en d'autres termes, de durée.
Ah oui, avec la tension.
Voilà, effectivement, ce sont des voyelles très tendues qui freinent la durée de la voyelle. Donc là, l'anglophone ne diphtonguerait pas. Donc l'astuce, c'est tu viens après, tu viens après, tu viens après, tu viens après. Et vous voyez que là, j'ai fait sauter le son parasite. Normalement, l'élève devrait bien le produire, puisque à trois reprises, il l'a produit convenablement. Soit dit en passant, je travaille sur des logatomes, c'est-à-dire des mots qui n'ont pas de signification. N'ayez aucune crainte, l'élève ne s'en rappellera jamais. Parce que, je tiens compte du fonctionnement de la mémoire de travail. Et à chaque fois que je propose une nouvelle version, si vous voulez, corrective, elle efface irrémédiablement la version précédente. C'est toujours la dernière version proposée à l'élève qui est susceptible de passer dans la mémoire permanente. Donc, il n'y a pas de danger.
Ah, c'est quand même bien foutu un apprenant.
On peut le voir comme ça, oui.
C'est vraiment génial, ce truc. En fait, tu manipules les organes phonatoires de l'apprenant à distance. C'est ça, hein, en gros.
Je n'avais jamais...
Sans les toucher, tu...
Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, ça crée des images, mais enfin, on peut en discuter, effectivement.
J'aurais pas dû te donner cette image. Non, mais quelque part, c'est ça, quoi. Sans rien expliquer, juste avec les gestes, etc., tu forces les organes phonatoires de l'apprenant dans la direction que tu souhaites, donc c'est...
Non, j'ai envie de dire que l'apprenant me fait confiance. Il se rend compte que effectivement, grâce à ce que je lui propose, ben il ressent un mieux, il entend un mieux. Si on travaille en groupe, l'apprenant bien se sûr. Rend compte quand même que ça marche sur les copains. Donc bon, ben sur lui aussi ça doit forcément marcher parce qu'au début il est peut-être sourd phonologiquement. Par contre, je le répète, en tant que prof, je ne fais jamais rien qui ne soit justifiable, voilà où je veux en arriver. Mais la technicité qui est la mienne, parce que ça fait des années que je fais ça, j'aime bien, etc. Je la développe quand je forme mes étudiants à l'université de Toulouse 2, quand je suis dans une session de formation de prof, etc. Mais vis-à-vis des apprenants, je ne leur dis jamais ce que je fais. Je leur demande simplement de répéter ce qu'ils entendent, de faire comme moi, que je suis pas fou, donc surtout qu'ils me fassent confiance. C'est mon fameux I need you. L'apprenant n'a pas besoin d'être noyé sous des considérations techniques, alors que là, je suis en train de vous noyer tous les deux, et plus tard, les personnes qui écouteront ce podcast.
Si on arrive à suivre, c'est bon.
Non, ça va, j'arrive à suivre, moi, donc logiquement, pas mal de personnes devraient arriver à suivre.
Et donc, le R, alors, tu disais qu'il fallait corriger ce truc-là aussi.
Ah oui, l'horreur. Bah, moi, c'est vraiment une horreur parce que le R anglais. Alors, bon, je vous le fais pendant 30 secondes, phonéticien sérieux, etc., etc. Le R de l'anglais est un R rétroflexe, c'est-à-dire que l'apex, la pointe de la langue, se retourne à l'intérieur de la bouche, style fait une sorte, se prépare à faire une sorte de saut périlleux arrière. Pour produire cette élévation de la langue et le fait que la langue donc se retourne et va vers l'arrière, ce qu'on appelle une consonne cacuminale. Je vous avais prévenu pendant 30 secondes, je fais le cacou. Donc c'est une consonne cacuminale. Ce dont il faut se rendre compte, ce dont il faut être conscient, pardon, c'est que ça demande une grande tension articulatoire. Donc le R qui est produit avec la pointe de la langue qui se retourne est une réalisation qui est très tendue en français. En anglais, pardon, et bien sûr quand l'anglophone reprend ses habitudes articulatoires en français, alors que le R du français, c'est la consonne la plus détendue de tout le système consonantique du français. Donc, articulation très tendue en anglais versus articulation très détendue en français. En même temps, l'anglais réalise l'articulation à l'avant de la bouche pour re, alors que en français, l'articulation est véritablement réalisée tout à fait à l'arrière de la bouche, et le re actuel produit en français, c'est une sorte de c'est simplement de l'air qui est expiré et qui passe à travers deux articulateurs qui sont très rapprochés. Donc c'est vraiment un son qui est formidablement détendu et ce n'est pas un son qui est difficile à mettre en place. Par contre, il y a un certain ordre d'acquisition qu'il faut respecter. C'est-à-dire que si je dois travailler avec mon apprenant anglophone, je vais lui demander dans un premier temps de répéter des mots tels que je vais à la gare, pas de problème. Je vais au bar, ça je sais que j'aurai tout de suite de la sympathie de la part de l'anglophone. Donc, je vais au bar, je vais à la gare. Une abeille, oulala, quel dard. Enfin bon, ça c'est déjà idiot. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que je place le re en position finale absolue, précédé de la voyelle A, qui est la voyelle la plus détendue du système, et en même temps, je suis en intonation descendante. Je vais au bar, je vais à la gare. Vous entendez également que je parle avec un rythme, un débit de parole relativement ralenti, ben parce que plus je gaspille de la tension sur les syllabes qui précèdent l'émission de re, plus mon re en finale absolue va être détendu. Et l'intonation descendante, d'autre part, a la propriété naturelle d'enlever de la tension au niveau des segments, c'est-à-dire au niveau des sons. Là encore, vous le voyez, je fais des choses que je peux totalement justifier en termes de phonétique générale, articulatoire, voire acoustique, etc. Si jamais je veux encore jouer sur l'éloignement du « re » en finale, ben, je vais faire précéder, par exemple, ma phrase d'un petit « a » de satisfaction. « Ah, je vais à la gare. Ah, je vais à la gare. » Ben, ce « a », qui, encore une fois, est la voyelle la plus détendue, me permet de gaspiller davantage de tension, ce qui fait que lorsque le « re » arrive, il est totalement détendu, à tel point que mon anglophone peut-être même ne pas l'entendre et va me faire quelque chose tel que « Ah, je vais à la gare !» Il ne réalise pas le « re », tellement le « re » est détendu. Et alors c'est là où, par exemple, je peux avoir un petit geste qui consiste à toucher ma gorge. « Je vais à la gare !» Et là, je suis en train de toucher juste en dessous de la pomme d'Adam pour lui montrer également « Attends, mon petit lapin, c'est là que ça se passe. Ça ne se passe pas, la gorge, c'est pas devant. Tout se joue derrière, finalement. » Et alors, normalement, l'anglophone, enfin, la plupart des anglophones arrivent à le produire. Au début, c'est timide, mais ils arrivent à le produire. Dès que vous avez le re en finale absolue, il faut l'éloigner de la syllabe absolue, mais il faut prendre des mots comme garage, c'est-à-dire le mettre en dernière syllabe, mais pas absolue, garage, barrage, etc., etc. Et puis après, vous remontez à l'intérieur de la phrase, et vous allez rencontrer une difficulté absolue, c'est que le re, c'est la consonne la plus fréquente en français. Et le re, il est partout. Et notamment, il est très souvent avec une autre consonne. Ben tiens, est très souvent avec une autre consonne. Voilà. Et dès que re est au contact d'une autre consonne, il y a surtension, puisque les deux sons sont ensemble, dans la même syllabe. C'est une horreur. Donc là, l'anglophone, il va revenir vers tray, vers autre, etc., etc. Astuce pour travailler. Ben, je mets un petit A ou un petit E de manière à séparer les deux consonnes. Par exemple, il est avec une otare consonne. Une otare consonne. Même je laisse tomber consonne, j'en ai pas besoin pour le moment. Une otare. Et là, l'anglophone, il va le faire, le une otare. Ok, je vais mettre le A qui est le plus détendu. Après, je mets un E qui est également très détendu. Une otare. Une autre, l'anglophone va le faire, et c'est là où je lui ai proposé, il est avec une autre consonne, une autre consonne, je réalise un te, je réalise un re, mais hypo tendu, et avec un peu de chance, l'anglophone va faire une autre consonne, il va réaliser un tre, disons, acceptable. Dans un premier temps, le tre peut être acceptable. Après, ça, il s'agit de travailler là-dessus. Ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est qu'on n'obtient pas tout de la première fois. Il faut, bien sûr, beaucoup de temps, il faut de la patience, il faut de la bonne volonté, tant de la part du prof que de l'élève. Mais je vous garantis qu'en 5 ou 6 séances, le re est installé. Ça, j'en mettrai ma tête coupée, la vôtre aussi, puisque vous êtes mes complices sur ce podcast.
On va espérer que ça marche alors.
En tout cas, c'est très clair. Hein. C'est très très clair en tout cas. Bon, ben merci pour ces premières astuces, Michel. C'est beaucoup plus clair. Je vous propose de passer à un troisième enregistrement qui cette fois-ci était d'un locuteur hispanophone, si je me souviens bien. Seb, c'était bien ça?
Oui, c'est ça.
Bonjour, je m'appelle Eduardo. Je suis un informaticien à l'ONU. Je travaille dans le département de gestion au sein de la section de gestion des installations de l'ONU dans une petite unité d'assistance d'information. Je travaillais avec une équipe de développeurs et une équipe de support informatique. Et nous faisons de la migration des systèmes anciens de notre département à une technologie plus actuelle.
Effectivement, hispanophone, tu saurais nous donner le pays, Michel?
Sincèrement, non. C'est quelqu'un qui vient du continent sud-américain?
Je pense, ouais, dans mes souvenirs, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai plus la nationalité en tête, mais oui, effectivement, ouais.
Parce que je pense qu'il n'est pas effectivement, qu'il n'est pas ibérique, si j'ose dire. Par contre, je ne saurais pas te dire pourquoi.
Alors, lui, justement, il est assez typique de nos hispanophones, je trouve, et même assez difficile à comprendre.
Il est assez difficile à comprendre, mais il a un système d'erreurs qui est extrêmement bien canalisé, en quelque sorte, dans la mesure où il reproduit systématiquement les mêmes erreurs. Soit dit en passant, hein, pour avoir le système d'erreurs d'un apprenant, il suffit de l'enregistrer comme tu le proposes là, et en 2 minutes à peu près, tu as l'intégralité des erreurs qu'il commet sur le plan segmental. Bon, ben là, dès sa deuxième syllabe, il commence bien, puisqu'il démarre par bonjour, donc je, et le re qui est un re roulé, donc là aussi produit avec une vibration de la pointe de la langue, donc c'est un son qui est trop tendu par rapport au re français, et les procédures de correction développées tout à l'heure s'appliquent également à Eduardo, puisque il me semble qu'il s'appelle Eduardo. Voilà, donc il y a le je qui est typique également de l'espagnol. À un autre moment d'ailleurs, le jeu et le lieu lui posent des problèmes, puisque quand je l'avais écouté, il parlait des projets au lieu des projets, ou alors à un moment il parle de j'ai travaillé au lieu de j'ai travaillé. Donc l'axe jeu-lieu lui pose un problème, mais c'est un classique pour les hispanophones. Il y a le U qui est prononcé OU, naturellement, unité, étudier, et le E qui est plutôt prononcé, et je crois qu'il, à deux reprises là, je sais pas, j'ai noté le mot développeur, c'est développeur, voilà, développeur au lieu de développeur. Donc c'est un système qui est extrêmement bien ciblé et qui est extrêmement typique des hispanophones. Donc j'ai envie de dire, dans la mesure où vraiment son système de faute, est bien ignoble, un peu comme on les aime quand on fait de la phonétique corrective, mais qu'il est parfaitement ciblé, il est possible de travailler facilement avec lui, à condition naturellement de poser le bon diagnostic de l'erreur. Je le répète, si on n'a pas posé le bon diagnostic, on se plante. À partir du moment où on a le diagnostic, on est sur une autoroute. Donc, vous voulez que je commence par quoi, messieurs ?
Eh ben justement, moi je me demandais au niveau du rythme et de l'intonation, tu vois, ça c'est typiquement le genre d'apprenant. Pour moi, c'est difficile de savoir si son rythme et son intonation sont bons ou mauvais, et puis surtout de voir ce qui cloche dedans, quoi.
Ouais, c'est-à-dire pour moi, le rythme et l'intonation, j'ai été peut-être moins interpellé par ce monsieur que par notre anglophone précédent. Ah bah parce que l'anglophone, vraiment, ouais. Il s'exprimait à l'anglaise, si j'ai pu dire. Là, Eduardo commet de telles erreurs au niveau segmental que l'oreille est en quelque sorte attirée par ces erreurs qui arrivent, mais en permanence. Il y en a pratiquement une toutes les deux syllabes, enfin, il y en a une par mot. Et en même temps, dans la mesure où c'est quelqu'un qui il raconte quelque chose, il est sur une intonation où il n'y a pas tellement de variabilité, de variation, il est sur une intonation relativement narrative, sur une prosodie narrative, et j'avoue que je n'ai personnellement rien entendu qui m'aurait fait sursauter, voilà. Mais peut-être que j'ai moins prêté
attention. Donc là, on est vraiment sur des problèmes de son, alors de phonème.
Ouais, c'est pour moi c'est vraiment les sons parce que c'est en rafale quoi. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir travailler en premier. Mais encore une fois, en travaillant avec l'apprenant, on peut repérer très vite des erreurs mélodico-rythmiques. Et dans ces cas-là, ben il s'agit de travailler également là-dessus si ça se présente. Mais là, c'est vrai que mon oreille était vraiment attirée par ces erreurs qui se répètent à un rythme.
Alors, par ça et la prononciation des finales aussi.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire qu'il prononce beaucoup de lettres à la fin des mots qui ne se prononcent pas normalement quoi, en français.
Oui, ce qui prouve à quel point l'écrit, enfin, dès qu'on commence par la lecture, ou alors dès qu'on est sur le système de l'écrit, et donc on prononce les lettres écrites mais qui, à l'oral, ne sont pas réalisées. Encore une fois, commencer par l'écrit, ça peut être très perturbant ou très perturbateur, bon, sans qu'est-ce qu'il faut dire, pour l'apprenant. De ce côté-là, effectivement, il le justifie très bien.
Ouais. Alors quand j'ai un apprenant comme lui avec tu le disais hein, une erreur toutes les deux syllabes, je commence par quoi ?
Par
quel son ?
Il y a deux façons de répondre. Il y aurait une idée qui consisterait à dire oh, tiens, j'ai un peu en tête les fréquences des consonnes et des voyelles en français oral et je pourrais commencer par les sons qui sont les plus fréquents dans la langue orale. C'est une manière de répondre. Il y a aussi une autre manière de répondre qui consiste à se dire oulala, oulala, tiens, ça je sens que je vais bien corriger le j, par exemple, qui est trop tendu, mais je me le sens pas pour le u. Ça peut être ça comme raison également, et tu commences la correction par ce qui te paraît être le plus facilement accessible. C'est ce que je fais quand j'ai par exemple des apprenants que je ne connais absolument pas. L'apprenant que je n'ai absolument pas, il va commettre 5 ou 6 erreurs de prononciation dans le même énoncé qu'il produit. C'est pas comme dans les bouquins de phonétique où tu as une erreur par énoncé. Ben, je vais commencer par ce qui me paraît être le plus facilement réalisable, un peu en regardant l'apprenant, je me sens à l'aise, etc. J'y vais un peu au petit bonheur, la chance, comme on dit à Toulouse, et puis après, bon, de toute façon, toutes ces erreurs, il les commet en permanence, donc je vais être obligé de m'y attaquer à un moment ou à un autre. Là, j'aurais envie quand même de travailler un peu sur le jeu, parce que les quelques, je sais pas moi, 30 secondes d'enregistrement que tu as passé permettent quand même de constater que le jeu, le jeu et le jeu lui posent véritablement un problème terrifiant. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se rendre compte que quand tu prends le tableau de correction des voyelles du français, que tu as intérêt à avoir avec toi quand tu n'es pas trop entraîné au départ. Le prof a intérêt à avoir son petit pense-bête sous les yeux.
Ah bah moi, je l'ai tatoué. Hein.
Ah, je vois que monsieur est un gros pig.
Je l'ai tatoué non, sur l'avant-bras.
Non,
là,
non, non là, là, je ne puis que m'incliner. Donc, non, ce que je veux dire, c'est qu'au départ, quand par exemple un prof démarre, c'est ce que je dis toujours à mes petits lapins en licence et en master de français langue étrangère, je leur dis toujours, bah, vous dites à vos élèves que vous démarrez en correction phonétique, vous n'êtes pas encore très sûr de vous, les élèves ne vous en voudront jamais finalement. Ça, c'est une évidence. Et puis après, on se rend compte que le fameux petit tableau, le petit papier qu'on avait à la main, et qu'on tremblait un peu en le consultant au départ, à la séance 4 ou 5, on le laisse sur le bureau, et à un moment, on oublie même de le sortir de son cartable. D'accord ? Donc, si par contre, j'ai mon tableau sous les yeux, je me rends compte qu'il y a un axe qui est « che, je, ye », le « je » qu'il produit, il serait placé également sur cet axe. Hein. Donc, on se rend compte que les erreurs sont complètement ciblées, et qu'il se plante systématiquement sur cet axe où la consonne la plus tendue pour un français c'est che, suivi de je qui est moins tendu que che mais plus tendu que ye. Et c'est pas par conséquent c'est pas par hasard si Eduardo n'arrive pas va dire meilleur au lieu de meilleur ou bien va encore dire travailler puisque là je crois qu'il le dit à deux reprises dans ce que j'avais écouté ou bien déployer au lieu de projet, donc il est vraiment sur un axe correctif où il se plante en particulier. Alors si j'ai le « je » par exemple qui me pose problème, là c'est très simple, pour moi « je » c'est une consonne trop tendue, et il va donc il va falloir l'entraîner à enlever de la tension. Alors tiens, le mot c'est « bonjour », puisqu'il démarre vraiment par ce mot « bonjour ouais. », je m'appelle...
Et moi je croyais d'ailleurs que c'était deux consonnes en fait, qu'il y avait un « d », un « de » et un « je » derrière, tu sais, le « je », comme
ouais,
ça.
Mais parce que tu résonnes à la française. Tu résonnes à la française, donc tu entends deux sons successifs. Par contre, cette consonne, c'est ce qu'on appellera un elle existe en espagnol, de même que le « che » de « macho », par exemple, qui existe en espagnol. Là, ces consonnes, on les appelle des mi-occlusives, termes articulatoires, ou des affriqués, termes perceptuels. Donc, ce sont des consonnes qui sont produites de façon complexe. Il y a d'abord un temps d'occlusion, suivi d'un temps de constriction. Donc, les deux articulateurs sont en contact au début de la consonne et se détendent brutalement lors de l'émission de la consonne. Mais c'est un seul phonème, c'est une articulation complexe. Les diphtongues sont des articulations vocaliques complexes et les affriqués sont des articulations consonantiques complexes. Donc, l'astuce là, ça va être de passer de « je » trop tendu à « ye », là encore, je vais jouer pour la détente, je vais jouer priorité à la prosodie, je vais par exemple lui demander de me dire quelque chose tel que « ah, bonjour ». Et à nouveau, intonation descendante, à nouveau, rythme ralenti pour gaspiller de la tension. Je peux même me mettre « je » momentanément en finale absolue. « Ah, bonge, ah, bonge », et je vois ce qui va se passer. Je peux même lui proposer quelque chose comme « âge ». Âge, donc supposons que là il me le fasse, parce que généralement il va le faire. Âge, très bien, je vais te demander quel âge, à jour, bonjour, bonjour, et je reprononce bonjour, le jeu est en creux intonatif, et là je vais monter petit à petit, bonjour, supposons qu'il fasse bien, bonjour, 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 je reviens mais pas à pas, step by step, chaque fois que je monte un peu, je remets de la tension. Et à un moment quelconque, il peut basculer de bonjour qu'il faisait bien à bonjour. Donc là, je sais qu'il faut que je fasse attention et je vais rester sur bonjour, que j'obtiens bien l'intonation descendante. C'est un moyen. Il y a un deuxième moyen qui est également extrêmement bien à utiliser avec des hispanophones. Je répète, c'est un axe che, je, ye. Quand on voit le tableau, il me dit bonjour, trop tendu, ben je vais lui proposer un son complètement détendu à l'inverse. Donc c'est ce qu'on appelle la prononciation nuancée ou inversée. Il a trop exagéré dans un sens, j'exagère en sens inverse, mais toujours sur mon axe che-je-yeux. Donc il me fait bonjour, trop tendu. Je lui ai demandé de me dire bonjour, che-je-yeux. Et il va me le faire, le bonjour, en me regardant d'un air un peu étonné, voir, oh mon Dieu, le prof, mais qu'est-ce qu'il se tient. Mais bon, pas grave, il va me faire bonjour. Et c'est là où je reviens vers bonjour, 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 bonjour. Où je reviens vers de yeux à je, toujours en intonation descendante, toujours avec un débit relativement ralenti, mais j'essaie d'articuler un jeu très hypo-articulé. Je lui dis surtout pas bonjour, parce qu'il va me faire bonjour, c'est évident, mais je passe de yeux à je en hypo-articulation. Bonjour, 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 bonjour. Et le procédé marche bien, ça je vous le garantis. Ce sont les deux premiers procédés que je peux utiliser. J'en ai même un troisième, parce qu'en verbo tonal, il y a quand même un cumul de procédés. Je me dis, je dois détendre. Il y a le jeu. Si je regarde un peu les voyelles classées sur un axe de la tension, je me rends compte que les voyelles dites d'aperture fermée sont les plus tendues, alors que les voyelles d'aperture ouverte sont au contraire très détendues. Bon, ben je vais remplacer momentanément ou par A, bonjour. Même pourquoi pas Bajar. Alors là, si je fais un truc tel Ah, Bajar. Là, il va. Ou même Ah, Bayard. Tiens, Bayard. Bayard. Je suis sur des logatomes, hein, avec cette idée. Mon apprenant me suit. Ben là, c'est un hispanophone très rétif. Ah, Bayard. Bajar. Tiens, il commence à me faire le jeu. Bajar. Je remplace d'abord la voyelle qu'il y a avant. Bonjour. Bon, supposons qu'il fasse bien la nasale aussi. Hein. Bonjour. Très bien. Là, il y a toujours le jeu. Je ne vais pas passer de A à O directement. Avant le O, il y a le E. Ça peut être bonjour, bonjour, bonjour. Donc, vous le voyez, c'est toujours step by step. Mais je le répète, en tant que prof, je cumule les procédés, mais je sais pourquoi j'applique ces procédés. Encore une fois, je peux justifier mon action pédagogique.
D'accord. Et tout ce qui est, en fait, ce qui est capital, c'est cette histoire de tension qui permet de corriger.
Ah, là, oui, c'est carrément. Ouais, j'ai l'impression. Diagnostiquer sur un axe de la tension. La tension, c'est de l'articulatoire qui dit pas son nom, finalement. Mais la tension, effectivement, elle est partout, la tension. Elle est au niveau corporel, elle est au niveau de la prosodie, elle est au niveau des syllabes, elle est au niveau des sons. Et oui, il faut savoir diagnostiquer cette erreur en termes de tension. Par contre, quand tu as Edouard qui prononce, tant que que c'était, je l'ai noté, unité ou bien étudier au lieu de étudier ou unité. Là, ce n'est pas une erreur de tension au niveau de la voyelle, c'est vraiment un problème de perception, c'est une erreur sur ce qu'on appelle en phonétique verbotonale l'axe clair-sombre. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Eduardo n'a pas été sensible au paquet de fréquences plus claires de U par rapport à OU et qu'il a perçu quelque chose de très assombri, donc ce qui explique pourquoi il réalise étudier. Alors là, ce n'est plus une erreur de tension, le diagnostic étant, il a perçu un son trop sombre, donc il va falloir lui proposer un entourage bien plus clair, de manière à ce qu'il arrive à percevoir les fréquences plus claires de U par rapport à celles de O. Alors là, ça va être l'intonation montante, c'est-à-dire, je lui ai demandé, plutôt, donc, et il m'a fait étudier, je lui ai fait « Ah, tu as étudié ?» Ou je vais, et même, plutôt que de faire étudier, donc je suis à l'intonation montante, parce que l'intonation montante, naturellement, j'insiste bien là-dessus, naturellement, met en valeur les fréquences claires des voyelles, à la limite, je n'ai même pas besoin de travailler sur « dié » pour l'instant. « tu as étudié, je fais sauter le « dié », et en faisant sauter le dié, donc j'allonge la durée de la voyelle, ce qui lui permet de théoriquement de mieux entendre le son. Pardon, pas de mieux l'entendre, mais d'avoir une chance, toujours théorique, enfin, un plus grand confort auditif. Parce que je dis, ah, tu as étudié, il est évident que le malheureux peut rien entendre. Alors que si je fais, tu as étudié, bon, ben, il y a un plus grand confort auditif, peut-être que ça va l'aider. Mmh. Et en même temps, je suis en syllabe accentuée, puisque c'est la dernière syllabe prononcée. Or, je sais qu'une voyelle sous l'accent est toujours plus claire, naturellement, qu'une voyelle en dehors de l'accent. Donc je cumule en quelque sorte deux procédés. Si ça ne marche pas, je parlais tout à l'heure de prononciation nuancée, lui a exagéré dans un sens, j'exagère en sens inverse. C'est-à-dire qu'il m'a proposé un son trop sombre et tout dié, ben je lui ai proposé un son beaucoup plus clair qui va plutôt vers le i, puisque l'axe c'est i, u, ou. Et je lui ai fait quelque chose tel que « Ah, tu as été... » Tu as étudié. Vous remarquerez que je ne prononce pas I, mais je prononce une voyelle complètement intermédiaire entre I et U. C'est ce qu'on appelle la prononciation nuancée. Et ce genre de truc peut fonctionner. D'accord. J'ai même une troisième astuce, je suis une bête, hein. Donc j'ai même une troisième astuce où je vais jouer sur les entourages dits facilitants. C'est-à-dire, j'ai quelque part, je connais parfaitement mon tableau des consonnes qui agissent spontanément sur le timbre de la voyelle suivante. Certaines consonnes, naturellement, ont comme propriété d'éclaircir le timbre de la voyelle suivante, et d'autres consonnes, inversement, assombrissent naturellement le timbre de la voyelle dans la même syllabe. Alors, je consulte mon petit tableau. Je vous rappelle au passage que c'est ce zet de neche, je que gefe, ve, pe, be, me. Ça écœure toujours les étudiants quand on leur fait ça, donc je ne vais pas résister à le faire devant le micro. Et je me rends compte que les consonnes éclaircissantes sont ce zet de. Damned, me dis-je. Ça veut dire que finalement, la consonne se est encore plus éclaircissante que de. Ben, je vais l'utiliser. À nouveau, je travaille sur un nom-mot, un logatum, et je vais faire quelque chose comme « tu as essu », et même pourquoi pas en prononciation nuancée « tu as essé ». Si mon élève me fait « tu as été », si j'ai réussi à le décoller du « ou », c'est gagné. D'accord ? Et là, je sais qu'à partir de là, je vais pouvoir effectivement, en quelques séances normalement, régler son problème. Avec des élèves motivés et avec des élèves qui font régulièrement, j'insiste sur la régularité, qui font régulièrement dans la correction phonétique, je suis formel, en un trimestre, vous faites quand même de sacrés résultats. Ouais. Par contre, ça ne veut pas dire que tous les élèves vont avoir une bonne prononciation. Là, je serais un charlatan si je vous disais ça. Mais, je le répète, si c'est régulier, cela peut contribuer à aider l'apprenant.
Ouais, et d'ailleurs, pour combiner un peu les deux trucs, les élèves motivés et puis un prof qui manque d'assurance, moi je sais que ce trimestre, par exemple, j'avais juste proposé à des volontaires de venir un peu avant le cours ou de rester un peu après, selon la disponibilité des salles. Pour, bah, comme ça, moi je m'entraînais, il n'y avait pas de pression sur ma séance qui était du bonus pour eux. Et j'avais que les plus motivés qui venaient. Donc, c'était gagnant-gagnant, quoi.
Bah, totalement. Mais là, tu as tout à fait raison. À partir du moment où tu t'entraînes, forcément, tu acquiers davantage d'assurance, en sachant que malgré tout, à n'importe quel moment, tu peux te planter. C'est pas forcément de ta faute, c'est pas de la faute de l'apprenant. Je veux dire, moi, je fais de la correction phonétique depuis, à l'heure que je censure, parce que je n'ose même pas remonter. Donc, je fais de la correction. Mais il m'arrive parfois de ne pas réussir. Bon, ben voilà, c'est comme ça, hein. Je vais pas éclater en sanglots. Par contre, la question d'entraînement pour un prof qui fait la correction phonétique, elle est importante.
Ouais, parce que moi, je préparais beaucoup pour ça. Alors que tu vois, toi, dans ton approche, j'ai quand même l'impression que, ben, en fonction de ce qui se produit, tu adaptes très vite. Et moi, j'avais pas du tout cette aisance-là, hein. Je faisais ce que j'avais prévu. De temps en temps, ça déviait un peu, mais pas énormément. Tandis que toi, tu arrives à adapter en fonction du son qui est produit en live devant toi, ce qui me semble très très difficile, quoi.
Non, ce n'est pas difficile, je pense pas. C'est une simple question d'entraînement. Et puis aussi, il faut avoir envie de le faire. Ça, je crois que c'est fondamental, quoi. Il y a des gens que ça va intéresser. Et puis, il y a des gens qui ne se le sentent pas en disant « Oulala, oulala, c'est pas mon truc, on s'expose trop en tant que prof, ou alors ça va trop vite, etc. » Mais il faut peut-être aussi vaincre une timidité qui est naturelle. Hein. Dès qu'on est dans le monde des sons, on est dans le monde de la voix, on est dans un monde qui est également extrêmement dominé par l'affectivité. Ça aussi, il faut s'en rendre compte, et il faut vaincre peut-être cette peur de encore une fois, de trop s'exposer, de... Et puis il faut aimer faire ça. Je crois que la notion d'authenticité du prof, cette notion de, alors pour employer les grands mots, la notion de congruence, c'est-à-dire le prof est authentique dans ce qu'il fait, les élèves s'en rendent compte instantanément. Et si le prof, effectivement, s'il voit que le prof s'investit, que le prof mouille sa chemise, que le prof surtout ne les condamne pas, bref, qu'il a une attitude réellement empathique, je pense que la plupart des élèves acceptent de jouer le jeu. Il y a toujours des élèves qui peuvent se montrer rétifs. D'où peut-être l'intérêt de faire la correction phonétique, comme tu dis, avant ou après un cours, ou dans un atelier. Il y a des gens qui ne supportent pas d'être exposés à la correction phonétique, parce que, ben, encore une fois, faire de la correction phonétique, c'est devoir étaler ses manques, c'est devoir étaler ses insuffisances aux yeux de toute la classe. Et ça, il y a des gens qui ne supportent pas de perdre la face, ouais, comme ça. Là aussi, il faut en être conscient.
Ça marche.
Michel, ouais, moi j'avais une petite question par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure. Tu disais donc de temps en temps, si c'était nécessaire, si la prononciation de l'apprenant partait un petit peu dans un extrême, on pouvait prendre le contre-pied et partir dans un autre extrême. On était sur l'exemple, je crois que c'était « che, je, ye ».
Oui.
Et toi, dans ta remédiation, tu proposais, dans ton intervention plutôt, tu proposais le « ye ». Pourquoi le « yeux » et pas le « che » par exemple? Il y avait une raison où les deux auraient été possibles ou vois ce que je veux dire? Il était sur un « je » lui, et toi tu partais plutôt sur le « yeux ». Pourquoi tu as choisi le « yeux » et pas le « che » ?
Ah, bah, tout simplement parce que « je » est trop tendu et « yeux » c'est sur le même point d'articulation que « je », mais c'est beaucoup moins tendu que « je ». Donc j'ai pas pris n'importe quelle semi-consonne, j'ai pris vraiment une semi-consonne qui se trouve sur, si je puis dire, la trajectoire de « che » et de « je ». Alors je n'ai pas pris « che » pour une raison très simple. C'est que si jamais ce monsieur est un hispanophone, et c'est un hispanophone, che n'existe pas dans son système. C'est-à-dire qu'il n'a pas che, mais il a che. Donc, à la limite, je ne vais pas lui proposer une difficulté supplémentaire, et donc j'évacue le son che, tout simplement.
Voilà, donc là aussi tu avais une explication à ton choix. Parfait, merci.
Ben, avec plaisir.
Et si on n'a pas le luxe de pouvoir proposer des ateliers, etc., on peut les faire travailler en autonomie, tout seul chez soi, avec des exercices, sans que le prof soit là ?
Alors là, tu me poses une question délicate. J'ai envie de te dire oui, puisque en plus, le mot autonomie, c'est l'un des mots très à la mode actuellement dans la didactique des langues et du FLE. Par contre, j'y mettrai un certain nombre de conditions. Première condition, travailler en autonomie alors que l'apprenant est livré à sa surdité phonologique, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire que tant que l'élève est fonctionnellement sourd au son de la langue étrangère, lui demander de répéter des listes de mots, d'être sur tel ou tel site, ou d'utiliser telle méthode, tel manuel de correction phonétique accompagné d'un CD-ROM, etc., ça ne va pas l'aider puisqu'il n'entend pas ses erreurs. Et à partir de là, ben, tu lui demanderas de répéter 1000 fois « étudier ». Le gars te répétera 1000 fois « étudier ». En toute bonne foi, il n'entend pas les erreurs. Par contre, lorsque le travail de remédiation phonétique s'effectue, il y a un moment où l'apprenant va entendre la différence entre le son erroné qu'il produit et le son cible tel que le prof veut lui faire réaliser. Et l'apprenant va te l'indiquer quelque part quand tu vas te dire « mais non, j'ai pas eu le temps d'étudier ». Voilà, hop, là ça veut dire qu'il entend, mais il n'est pas encore totalement autonome, c'est-à-dire que quand il fait ça, quand il est avec toi, son prof de phonétique, tu le corriges très rapidement et il n'y a plus de problème. Mais s'il étudie le français avec un ou deux autres enseignants, là, il continue de commettre ses erreurs originelles. Et la troisième étape, c'est l'étape quand l'élève te dit « Ah, écoute, prof, il y a chaud d'échoré, mais il n'y a pas eu l'OTAN. » Non, remarque, il n'a pas été à parler comme ça, parce que ça veut dire que tu as mal fait ton boulot, je suis désolé. Non, donc, voilà, bon, j'ai pas eu le temps d'étudier la leçon parce que, autrement dit, non seulement il se corrige, mais il continue de parler. Et alors là, ça veut dire, ok, il est en train de l'acquérir, sa fameuse autonomie. Donc, puisqu'il n'est plus arrêté, il continue de parler. Alors c'est là où véritablement il faut pratiquer le harcèlement phonétique, hein, phonétique harassment, c'est là où vraiment il faut le pratiquer. Et par contre, bon, oui, à partir de là, en cours, tu le corriges systématiquement parce que le son, il l'entend, mais il faut vraiment le fixer, il faut l'installer quelque part dans son cerveau. Et c'est vrai que s'il fait un travail à la maison, là, c'est véritablement utile, dans la mesure où maintenant, il entend bien la différence. Ce que je veux dire, c'est que l'autonomie ne s'acquiert qu'à une certaine étape, sur le plan phonétique, et l'autonomie, avant de pouvoir y accéder, l'apprenant a besoin d'une guidance. L'apprenant seul ne peut absolument pas surmonter sa surdité phonologique, qui, je le rappelle, est naturelle. Bon, à l'exception de quelques personnes rares qui sont des buvards phonétiques, mais ce sont davantage des exceptions que des règles, quoi, c'est évident. Donc l'autonomie, oui, mais elle doit être préparée par l'enseignant, et l'apprenant doit accéder à un certain niveau, lui permettant ensuite de gagner en autonomie.
D'accord. Bah, en tout cas, Michel, merci beaucoup pour les positions de correction et les diagnostics hein, de ces trois apprenants. Et puis on va maintenant passer aux ressources avec Fred.
Oui, donc une rubrique ressources un petit peu spéciale cette semaine. On va tout simplement, c'est une rubrique même pour aller plus loin d'habitude avec les agités du fleu. Oulala, je me mélange moi aussi maintenant avec nos trois séries. On va se concentrer sur une seule ressource, mais qui est assez conséquente et très utile par rapport à notre thème, je pense. Bon, bien sûr, vous savez que Michel tient un blog, comme on l'a rappelé, donc au son du fleu. Et il y a une petite particularité cette année, c'est que en fait, Michel partage sur son blog. Il met en ligne en fait le cours qu'il est en train de tenir en licence 3, c'est ça ?
C'est ça.
Ouais, licence 3. Donc c'était un cours d'introduction à la phonétique générale et corrective du FLE. Donc si vous avez encore été un petit peu perdu durant cet épisode ou que vous voulez revoir, on va dire, de manière un peu théorique, en tout cas plutôt que théorique, j'ai envie de dire un peu plus posée avec des diaporamas, eh bien Michel partage donc les différents chapitres de son cours sur son blog. On vous mettra donc le lien dans la rubrique pour aller plus loin. On ne devrait pas tarder d'ailleurs à arriver à la fin des différents chapitres. Donc ça donne une très bonne vue d'ensemble de ce qui est proposé par Michel. Et moi, en tout cas, je l'ai regardé. Je sais qu'on est plusieurs autres à l'avoir regardé. C'est très utile pour avoir une bonne idée de ce qui se fait dans ce domaine. Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. Il y a déjà de quoi faire avec cette ressource-là. Tu avais quelque chose à ajouter, Seb, ou pas ?
Il y a toujours le... Bah, qui est en lien, en fait. Hein, le cours qui est hébergé par Toulouse 2, hein, je crois, qui est le cours de phonétique corrective en FLE, avec, bah, qui a été fait par toi, avec les quatre ensemble. Hein. Ça fait un ou deux ans, je crois, qu'il est en ligne, avec son organisation très facile à suivre. C'est très beau. C'est aussi du travail hein, pour un prof de suivre ce cours à distance. Moi, j'ai toujours pas fait le tour. On en avait déjà parlé, mais je suis content de voir qu'il est toujours en ligne. Donc, et ça, de toute façon, ce cours-là, je crois que tu le mets aussi en lien sur ton blog.
Tout à fait, c'est un cours qui est sponsorisé, si j'ose dire, par l'UOH, l'Université Ouverte des Humanités. Donc, c'est un cours qui est pérenne, quoi. Il restera sur la toile.
Ouais.
Tout à fait.
Eh bien parfait, je crois qu'on a de quoi faire là avec toutes ces ressources et avec tous ces exemples de remédiation phonétique. Merci beaucoup Michel. Ça va être donc la fin de ce numéro. On vous rappelle donc que vous pouvez nous retrouver sur le site Agito, bien entendu, où vous aurez toutes les notes de l'émission avec les différents liens dont on a parlé et aussi les trois enregistrements qu'on a écoutés aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à utiliser les commentaires sur le billet pour éventuellement continuer la discussion ou poser des questions peut-être à Michel, hein, on lui relaiera les questions. Vous pouvez aussi nous retrouver comme d'habitude sur iTunes où vous pouvez nous laisser une petite note avec des étoiles, donc comme d'habitude toujours 5 étoiles minimum. Et vous voilà. Pouvez nous retrouver aussi, voilà, on s'est dit sur PodCloud, il y a la page LinkedIn, sur les différents réseaux sociaux. On est toujours ouvert, bien entendu, à la discussion. On adore avoir de vos retours. Ben, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Michel. Merci, Seb. Et puis, bon cours à tous. Et bonne correction, bonne remédiation phonétique.
Bon cours à tous. Merci, Michel.
Ça a été un plaisir et un honneur d'être reçu par vous. Merci infiniment.